Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ma fille sous influence, saison 2, de l'autre côté du miroir.
Il n'y aura pas de saison 2, nous a annoncé Nathalie, sans grande ambiguïté. Rappelez-vous, Nathalie, c'était cette mère courage qui voulait comprendre comment sa fille Emma, de 15 ans et demi, avait été endoctrinée par les réseaux de l'État islamique et l'empêchait de partir en Syrie. Nous avions raconté son histoire dans un podcast en 5 épisodes de Rémi Dibowski-Douat et Laure Marchand. Il n'y aura pas de suite, a-t-elle dit, car la suite reste entre nous. Sachez simplement qu'Emma va bien, que la rencontre entre notre famille et son copain s'est bien passée, que tout va pour le mieux, dit-elle. Ainsi va la vie des documentaires et des personnages qui les habitent. Leur existence leur appartient et c'est heureux. Et ce n'est pas comme si on allait lui mettre le couteau sous la gorge non plus. Qui sait, peut-être une saison 3, a ajouté Rémi Dibowski-Douat en riant, ce qui nous a rempli d'espoir. C'est à ce moment-là que sont arrivées au bureau des pieds sur terre deux jeunes femmes qui prétendaient connaître Emma et nous en donner des nouvelles. D'une certaine façon, en tout cas. Des jeunes filles endoctrinées par Daesh qui ont voulu partir en Syrie, qui y sont allées, qui en sont revenues ou qui y sont encore, elles en ont rencontré, fréquenté, interviewé une trentaine. Emma aurait pu être l'une d'elles. Amel, par exemple, a essayé de partir en Syrie 7 fois. Sa mère a mis le canapé devant la porte de sa chambre, l'a pistée, espionnée, elle est venue la chercher à la sortie de l'école, elle a tout fait pour l'empêcher de partir et elle a réussi. Hafsa, elle, à 15 ans, est allée encore plus loin. Elle a monté ce qu'elle appelle un projet avec ses sœurs. Elle a dit « Mourir en martyr, c'est le rêve de tout le monde ». Olivia s'est convertie à l'âge de 12 ans. Elle a passé 2 mois et demi à Raqqa, en Syrie, avec un mari plutôt feignant. Sarah et Yasmine, et d'autres encore, sont parties pleines d'espoir et ne sont pas rentrées. Toutes ont, avec Emma, un air de famille, comme des frères et sœurs qui se ressemblent, mais pas par les mêmes traits. Avec l'une d'elles, ce sera la même mère, avec l'autre, la même ville, les mêmes rêves. Avec celle-ci, un trait de caractère, avec cette autre, le même genre de mari. Mais toutes ont en commun un schéma de radicalisation à peu près identique, presque répétitif. C'est comme ça qu'on s'est dit, finalement, qu'on allait traverser le miroir et regarder ce qui s'est passé du point de vue de ces adolescentes. Qu'en racontant l'histoire de quelques-unes d'entre elles, on avait sûrement quelque chose à apprendre sur ces filles sous influence qui ont bouleversé la vie de leur mère, celle de nos auditeurs et de la France entière. Ma fille sous influence, saison 2 donc, ça s'appelle De l'autre côté du miroir, 5 histoires sans commentaires, c'est reparti. Et c'est avec Edith Bouvier et Céline Martelet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Amel, donc j'ai 20 ans aujourd'hui. Et j'ai été condamnée à 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. J'ai essayé plusieurs fois de partir en Syrie et voilà. Je me suis intéressée à l'islam, c'était en 2014, donc faut faire le compte. Ouais, je crois que j'avais 14 ans. J'ai appris la prière toute seule parce que moi, ma famille est musulmane, mais ils m'ont jamais appris à prier, ils m'ont rien appris. Je me suis voilée. Et du coup, en fait, dès que j'ai mis le voile, vu que c'était d'un coup, ça a été un choc pour tout le monde, que ce soit pour mon école, pour ma famille, pour mes amis. C'est la veille, je venais en jeans, slim, legging et tout, et puis le lendemain, long voile tout noir et tout, donc... C'est ça qui a fait que bah, tout le monde s'est un peu éloigné de moi et moi je me suis éloignée d'eux du coup bah, du fait qu'ils m'ont un peu rejetée. Moi je l'ai pris comme une attaque personnelle. D'un coup je suis rentrée dans le côté un peu obscur, ça veut dire j'aime pas les mécréants, ils m'aiment pas. Et puis je leur déclare pas la guerre mais en gros je suis pour tout ce qui se passe, je soutiens et voilà. Du coup, bah, je me suis intéressée, c'était sur Internet au début. Et j'ai trouvé en fait que c'était... c'est bizarre à dire, mais c'était réconfortant en fait ce côté-là. C'est que j'avais une explication à tout, qui était déjà prête, qui était déjà Et ça me convenait, en fait. C'était exactement, en fait, c'était une réponse qui était adaptée à ce que je vivais. C'est ouais, ils t'aiment pas, ils veulent pas de toi, ils t'attaquent comme ils attaquent autre part, enfin en Syrie et tout, c'est tous les mêmes. Il n'y a pas de cas par cas, il n'y a pas de un gentil mécréant, c'est tous des méchants. C'était facile pour moi, il n'y avait pas de complications. C'était juste, comme j'ai dit, on m'a beaucoup rejeté quand j'ai mis le voile. Et du coup, bah, c'était facile pour moi de croire qu'il n'y avait pas de gentils mécréants, genre il n'y avait que des méchants. Et ouais, je les ai crus. J'étais dans mes livres, sur internet, beaucoup. J'avais même plus d'amis réels, c'était que des amis virtuels. Et voilà. Pour moi, les exécutions, il n'y avait rien de choquant, en fait. Ça m'arrivait même de regarder les vidéos et tout, sans que je ressente que c'est des humains qui sont en train de mourir, en fait. Pour moi, c'était... ils le méritaient. Même pas pour des crimes ou quoi, qu'ils ont tué des gens. C'est même juste pour le fait qu'ils adhèrent pas à ma religion, ils méritent de mourir, en fait. Je voyais pas le mal, et même... C'était totalement normal, en fait. J'ai totalement adhéré au fait, comme j'ai dit, que les mécréants étaient tous des méchants, qu'il n'y avait pas un homme derrière moi. J'étais pas à la recherche d'un homme, j'étais juste... la recherche d'un état où je pouvais vivre ma religion pleinement, où je pouvais en fait être libre de pratiquer, être libre de dire ce que je pensais vraiment, en fait. Et je savais que là-bas c'était totalement ce que je voulais vivre, être couverte de la tête aux pieds. Pour moi, c'était ça, en fait. C'était ça, mon but. C'était pas avoir une piscine. Je savais très bien que dans un pays en guerre, il n'y avait pas un hôtel 4 étoiles et une piscine qui m'attendait. Je savais que ça allait être très dur. Et mes tentatives de départ... Déjà, c'est dur pour moi de compter parce que dès le moment où ça a commencé jusqu'à mon incarcération... Je pensais toujours à comment quitter la France, comment. Je me réveillais à comment je vais quitter, je dormais, comment je vais quitter, je préparais, puis ça tombait à l'eau, puis je voyais qu'il y avait une faille, donc je refaisais un autre plan, donc c'est dur de compter. Mais vraiment, les vraies tentatives où il y avait des moyens derrière et des personnes derrière, on a compté, c'était 3 ou 4 ? 3 tentatives où vraiment il y avait des moyens et des personnes derrière. Alors, déjà la première, je devais partir avec une fille. C'était en été 2014. Et du coup, ça s'est passé dès que le califat, en fait, il s'est autoproclamé. Et du coup, cette fille-là, elle avait des papiers pour moi, de l'argent, enfin des papiers, c'était les papiers de sa sœur. Et elle avait récolté assez d'argent pour nous deux. Moi aussi, j'avais un peu d'argent. C'était juste mon argent de poche que je mettais de côté. Et moi, j'ai été retenue. Donc, elle ne m'a pas attendue. Elle n'a pas voulu m'attendre. C'était trop dur pour elle d'attendre même un jour. Et elle s'est fait arrêter donc, aux frontières. Et donc, les policiers, en fait, ils m'ont convoquée sans idée derrière. Ça veut dire jamais ils auraient soupçonné que j'étais impliquée dans le départ. C'était juste un simple témoignage. Et puis ils ont vu que je mentais et ils ont découvert des choses chez cette fille-là qui ont fait que j'ai plus tard été arrêtée au moment même où je préparais un deuxième départ, donc le deuxième, qui était cette fois-ci en Libye. J'ai 15 ans là, 15 ou 16, je sais plus, mais oui, dans ces alentours-là. Ils m'ont arrêtée chez moi, donc 4 jours de garde à vue. Et du coup, ils m'ont ramenée dans leurs locaux, ils m'ont longuement interrogée. Mais je vais pas mentir, j'avais un peu peur. J'étais pas fière. C'était plus un test que je devais réussir. Donc tout le long de ma garde à vue, je me répétais qu'il fallait pas que je craque, fallait pas que je montre que je suis faible, qu'ils étaient plus forts que moi. Donc j'ai tenu les 4 jours sans dénoncer des personnes, sans être totalement honnête. Je me suis préparée à soit mourir, soit être en prison, en fait. Donc je m'attendais à toutes les options que j'avais, je m'y suis préparée. Donc, quand ils m'ont laissé libre, j'avais un contrôle judiciaire qui était contraignant. J'avais plus le droit de contacter des personnes qu'il y a quelques jours auparavant, je contactais jour et nuit. C'était ça qui était le plus dur pour moi, de ne pas avoir le droit de leur parler, de leur répondre. La plupart, ils étaient là-bas, en Syrie. Après, je devais pointer toutes les semaines. Donc c'est ça aussi qui m'a donné le sentiment de rejet. À l'entrée du commissariat, pareil, dès que j'arrivais devant la porte, il y avait deux policiers qui sortaient et qui me mettaient de côté, qui me palpaient dehors. Et j'en avais marre d'être sous leurs mains, parce que pour moi, en fait, l'idée que j'étais plus forte qu'eux, que je valais plus que les mécréants, que j'étais au-dessus d'eux, bah, elle est vraiment rentrée dans ma tête. Donc voir un policier me mettre de côté et me palper, c'était horrible pour moi. J'avais 15 idées qui me passaient en tête à ce moment-là, donc j'ai des idées, quoi. En tout cas, ouais. Et voilà, donc c'était vraiment une époque que j'ai mal vécue, en fait. À ce moment-là, mes parents ont tout de suite compris pourquoi j'étais autant enfermée. Ma mère a compris pourquoi dans ma chambre elle a trouvé des voiles intégrales, enfin un sitar, quoi ça s'appelle, donc qui couvre tout le visage. Elle a tout de suite fait le lien et elle a tout de suite compris que bah, un jour ou l'autre je me ferais arrêter. De toute façon, je lui disais que un jour ou l'autre ça sera soit la mort, soit la prison. Elle a tout essayé, elle m'a enlevé tout ce que je pouvais avoir pour communiquer, mes téléphones. Même le simple fait d'aller à l'école, c'était elle qui me déposait, qui me re-ramenait chez moi. Vraiment, je pense pas qu'une mère aurait pu faire plus que ce qu'elle a fait, à moins de me séquestrer, de me menotter contre un radiateur. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas une solution plus radicale que ce qu'elle a pris. Et malgré ça, bah, je me disais, à quoi ça sert que je sois là, en fait? De toute façon, je vais finir en prison. Autant essayer d'avoir une petite chance d'être libre, plutôt que de rester comme ça, rien faire et à attendre qu'on m'enferme une bonne fois pour toutes, bah voilà, en fait, j'ai décidé de partir. Donc, ma dernière tentative, on est en fin 2016. J'ai 17 ans. Et j'étais dans un groupe de filles. Et donc, dans ce groupe-là, on parlait pour rire de partir. Et moi, vu que ça me tenait à cœur, bah, j'ai motivé tout de suite les filles à partir. J'ai dit, bah, on est toutes motivées, il faut qu'on parte maintenant, toutes ensemble. Et puis voilà, ce qu'il adviendra, adviendra. Si on se fait arrêter, on se fait arrêter. De toute façon, ça nous pendait au nez. Donc, autant tout faire en sorte pour accomplir ce qu'on voulait accomplir. Et du coup, on était trois. On a programmé un départ avec tous nos contacts qu'on avait en commun, qu'on pouvait avoir. On a tout programmé. C'était très facile, en fait. J'avais plus le carte d'identité. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas encore comment j'allais faire. Je pensais plutôt à faire des faux papiers. Et puis, une des filles s'est désistée. Donc, moi, j'en ai profité. J'ai accepté qu'elle se désiste à condition qu'elle me donne ses papiers. Elle a tout de suite accepté, donc on a fait un plan pour pas qu'elle ait des répercussions. On a fait des fausses conversations qui montraient que, en gros, elle essayait un peu de me convaincre de pas partir. Et moi, je lui disais, ok, faudrait qu'on en parle en vrai, qu'on se voit dans un endroit calme et tout. Et en fait, c'était ce jour-là que, soi-disant, j'allais voler sa carte d'identité. Donc on a fait des faux messages qui sont passés très bien au niveau des policiers. Et du coup, j'ai pris ces papiers ce jour-là. Et je suis partie quelques jours après en compagnie d'une autre fille. La veille, je voulais tellement mettre toutes les chances de mon côté que je me suis interdite le fait de dormir. De peur que je me réveille pas pour prendre mon train, je me forçais à ne pas dormir. L'argent, on a eu des fonds nécessaires par des personnes en France. Et on a pu quitter la France malgré que j'étais assignée dans ma ville. Et on est parti en car. J'ai fait à peu près toute l'Europe. Non, attends. Allemagne... Ouais, 4. 4 pays. Et je me suis fait arrêter.
Là, t'as quel âge ?
J'ai 17 ans. J'ai été dans un poste frontalier aux frontières bulgares, où les douaniers vérifient chaque passager qui essaye de passer les frontières. Et à ce moment-là, ils ont vérifié mes papiers, donc je sais pas si c'était ma tête qui leur a pas inspiré confiance. J'étais vêtue d'une robe toute noire. Ils m'ont mis de côté. Et puis, ils ont compris que la fille était avec moi, donc ils l'ont embarquée avec moi. On a fait une garde à vue au service antiterroriste de ce pays. On est passé devant un juge bulgare qui nous a jugés à ce que la France vienne nous récupérer, je crois. Ils avaient un délai de 20 jours, je crois, je sais plus combien de jours. Je me disais, c'est quand qu'on vient me chercher, la prison bulgare, c'était horrible. Je veux même pas en parler, c'était vraiment... C'était pas les prisons françaises, quoi. C'était pas l'avocat commis d'office qui arrivait, le petit plat, le petit déjeuner, le petit repas et le petit dîner. C'était pas ça du tout. Et du coup, la France, ils sont venus me chercher le dernier jour qui restait. Ils m'ont fouillé intégralement, je pense, 4 fois. Je sais pas ce qu'ils pensaient trouver en moi, mais je pense que je faisais peur. Et j'ai pleuré. J'avais pas le droit d'appeler. À un moment, ils m'ont laissé appeler ma mère. Et j'ai pleuré au téléphone. Je lui ai dit que je regrettais tout ce que j'ai fait, que j'étais en train d'être châtiée par Dieu. Donc pour moi, c'était un châtiment ce que je vivais. Que tout ce que j'étais en train de payer, en fait, les conséquences de mes actes. Et c'était très dur à gérer. C'est à ce moment-là où je me disais que ma vie, elle était finie, en fait. Après, je prends l'avion. J'arrive en France, donc je suis accueillie par les agents des renseignements qui m'avaient arrêtée la toute première fois. Et on m'a tout de suite ramenée, du coup, au dépôt du tribunal de Paris. Le lendemain, je suis passée devant une juge des libertés qui a décidé de m'incarcérer, que c'était plus possible pour moi, la liberté. Ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai tout de suite été ramenée dans une prison pour mineurs, Kievrechain. Je peux le dire. C'est dans le nord, à la frontière belge. Et ils n'ont pas voulu me mélanger avec d'autres détenus. Donc, ils m'ont mis à l'isolement pendant presque... ou même plus d'un mois. J'ai dormi tout le long, sans prendre aucun médicament. J'ai pris aucun médicament, mais les éducateurs, je sais qu'ils étaient très inquiets pour moi parce que je semblais ne pas avoir réalisé où j'étais, tellement j'étais calme, en fait. Et c'est vrai, en fait, à ce moment-là, je réalisais pas encore que j'étais en prison, ce que j'ai fait aussi, que j'ai essayé de partir. Je réalisais pas du tout. Du coup, ils ont décidé de me mettre avec les autres détenus. Au début, j'étais très renfermée sur moi-même. Les gens essayaient de me parler, surtout ils étaient très impressionnés. Ils savaient tous pourquoi j'étais là, mais c'est toujours impressionnant de voir une terroriste en face de soi, mais ils n'étaient pas méchants, il n'y avait pas de réaction méchante. Je suis restée 5 mois dans l'établissement pour mineurs. Je comptais les jours. J'attendais que ma mère vienne au parloir. Elle venait tout le temps. Elle venait 2 fois par semaine. Même les surveillants, parfois, lui disaient que c'est beaucoup pour elle. Et je me souviens que ma mère, elle leur répondait tout le temps, mais c'est peu pour elle aussi. J'ai vu sa santé mentale quand même être affectée par ce que j'ai fait. J'ai vu sa grande détresse. Je lui demandais pardon tout le temps. Tout le temps, elle me disait qu'elle me pardonnait. Et je lui disais, maintenant c'est fini, maintenant je recommencerai plus jamais. Puis je pense qu'elle m'a cru. En voyant mes larmes, je pense que c'est la première fois où elle me sentait sincère. Parce que je lui ai déjà dit que c'était fini tout ça, et puis je recommençais, mais le dire avec des larmes, le dire sans... En fait, sans aucun objectif, parce que pour moi, j'allais finir en prison. Mais je voulais lui faire savoir que si jamais je sortais, bah, ça sera fini. En fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai... pour moi, tout était clair. Tout était clair. Qui m'aimait, qui tenait réellement à moi. C'est encore très dur pour moi de... Bah, de me dire que j'ai fait vivre ça à ma famille, pas juste à ma mère, mes frères, mon père. Je le savais qu'il me soutenait, mais à ce moment-là, c'était à ce moment-là que j'avais besoin de soutien. Je pensais vraiment qu'ils allaient me laisser tomber ou que cette semaine, elle allait pas venir me voir. Et toutes les semaines, la veille, on me disait bah, « Demain, t'as un parloir ». Et c'était toujours un soulagement. Un vrai soulagement. C'était ça qui m'a sauvée. C'est pas le fait d'être incarcérée ou autre. C'est vraiment d'avoir le soutien de sa famille. J'ai changé de maison d'arrêt. Donc je suis partie dans une maison d'arrêt pour majeurs. À ce moment-là, j'ai passé mon bac. Je l'ai eu en prison. Mais je savais qu'il fallait que j'aie le bac pour demander une libération. Donc j'ai tout donné. Et puis bah, je l'ai eu. Et au bout d'un an de détention, j'ai été libérée sous bracelet. C'était très dur, le bracelet. En fait, il y a le bracelet électronique que je pense tout le monde connaît. Et à côté de ça, il y a comme un, comme une petite Game Boy, quoi. Genre, ça a la forme d'une Game Boy. Ça envoie directement à des surveillants ma position exacte au centimètre près. Même quand je dors, quoi, je dois le brancher, ça doit rester allumé. Et dès que ça capte pas, donc déjà moi ça sonne de mon côté, donc on entend une forte sonnerie. Dun, dun, genre c'est horrible. Je me souviens, mon procès ça l'a fait, et le juge il s'est tout de suite énervé, il a dit c'est qui a laissé son téléphone allumé, et je lui dis bah c'est mon bracelet, il s'est tout de suite tué quoi. Donc ça sonne. Si je me remets pas, enfin si je retrouve pas une position, ils m'appellent tout de suite. Il y a un capitaine qui m'appelle et ils me disent directement où je suis, qu'il faut tout de suite que je retrouve une position. Et si je retrouve pas, bah peu importe, il faut que je rentre chez moi. Et voilà. Alors j'ai été jugée en janvier 2019 au tribunal de Paris dans une cour. Pour mineurs, donc dans un tribunal pour enfants. J'ai été totalement honnête, donc j'ai tout assumé pour moi. Et du coup, bah, j'ai répondu très honnêtement aux questions un peu plus délicates. Est-ce que c'est fini tout ça? Est-ce que t'es laïque? J'ai totalement dit ouvertement que bah, j'étais pas laïque, que j'étais musulmane. Et pour moi, l'islam et la laïcité, ça collait pas. Je l'ai dit comme ça, devant les juges, devant le procureur. J'ai montré mon vrai visage, j'ai assumé ma religion, parce que pendant tout le long de mon affaire, j'ai beaucoup dissimulé. Ça m'arrivait d'aller même pas voilée devant ma juge. Là, je suis arrivée voilée pour leur montrer que bah, c'était moi, en fait. C'était pas quelqu'un d'autre qui se présentait au procès. Et je suis venue comme je m'habille tous les jours, ça veut dire, je me souviens, j'étais venue avec une longue robe et un voile long, donc j'ai vraiment voulu montrer que bah, c'était moi. Et puis voilà, et puis au final, bah, les juges ont pris leur décision, ont estimé que non, que j'étais pas à ce point-là dangereuse, que j'ai assez payé, que j'ai assez... J'ai quand même passé un an de prison, un an de bracelet, donc c'est compté comme de la prison, donc au final, 2 ans. Ils ont estimé que c'était totalement assez, que maintenant fallait plus opter pour un suivi éducatif plutôt que de la prison, que de la sanction. J'ai été sanctionnée aussi, mais ils décident 4 ans ferme, dont je crois 2 ans de sursis, je sais même plus. Et du coup, bah, il me restait donc mon sursis à faire. Non, 3 ans de sursis, je crois. Et... le lendemain, je suis partie pour qu'on me coupe le bracelet. J'étais sortie, je me souviens, avec ma mère dans un restaurant. C'était tard, J'étais très choquée, j'avais l'impression que je faisais un truc illégal. Et puis voilà, c'était la première chose que j'ai fait, c'était de sortir. Quand je me dis, il y a eu une époque où je dormais entre quatre murs, derrière des barreaux et tout, je me dis, mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour tenir? Mais si, j'ai tenu et maintenant c'est fini en fait. Fini, je veux plus jamais avoir à retourner dans une cellule ou avoir une menotte dans le pied, c'est fini. Je raconte pas mon passé. Parfois, quand je suis contrainte de raconter, bah, je raconte, mais sinon, il y a certaines de mes amies qui ne savent même pas que j'ai été en prison, que j'ai vécu tout ça, elles ne savent pas du tout. Même des anciennes amies de lycée, hein, je leur ai dit j'étais chez ma tante pendant un an, vu qu'elles ont vu que j'ai disparu de tous les réseaux et tout, je leur ai dit que j'étais chez ma tante. En fait, j'accepte que on me catégorise de terroriste parce que à une époque pour moi la religion c'était la terreur. Moi aujourd'hui c'est fini pour moi. À l'avenir, je vois des enfants. J'ai envie de fonder une famille, déjà pour l'instant. Et je pense que c'est déjà bien. Pour l'instant, je vais rester en France pendant très longtemps peut-être, mais sur le long terme, je pourrais pas finir ma vie en France. Ça, jusqu'à maintenant, je maintiens le fait que je ressens un besoin de vivre sereinement, de vivre dans un pays où je me sens réellement bien en fait. Mais je sais pas, j'avais une idée, je pensais au Canada à un moment, mais apparemment ça devient comme la France en ce moment, donc je sais pas encore, j'ai pas d'idée, peut-être Londres. On va pas se mentir que niveau rejet de l'islam, c'est très fort en France, mais ça va, c'est pas comme avant où pour moi c'était une agression tous les jours, chaque regard pour moi c'était une attaque à moi-même en fait, une attaque à ma religion et une attaque à moi-même. Maintenant, même si des personnes vont me regarder, ça me passe au-dessus en fait. Regarde si tu veux, je m'en fous. Et voilà.
C'était Ma fille sous influence, saison 2, épisode 1, avec Amel, reportage Edith Bouvier et Céline Martelet, réalisé par Clémence Grosse, d'après une idée originale de Rémi Dibowski-Douette et Laure Marchand. Merci à Maître Marie Dosé, à Maître Camille Amonet, à Claire Andrieux, à Clémy, ainsi qu'à l'aumônier de Fleury-Mérogis. Merci aussi à Laure Janel, qui s'est occupée de ce petit générique. Ma fille sous influence, deuxième saison, est disponible en intégralité en podcast dès aujourd'hui en vous abonnant sur toutes les bonnes applis de podcast à Ma fille sous influence. Vous en profiterez, j'en suis sûre, pour écouter ou réécouter la saison 1 de cette série. Vous retrouvez aussi des tas d'informations sur le site de France Culture à la page Ma fille sous influence. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Zoé Marie Roulier, c'est notre stagiaire.